Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission Point de mire se propose de vous présenter l'Académie des sciences morales et politiques. Son histoire, les disciplines que recouvre cette surprenante appellation et son rôle dans la société actuelle. Et pour nous l'expliquer, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Albert, bonjour.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je rappellerai simplement que vous avez été élu membre de cette Académie en 1994 dans la section économie politique, statistique et finance, et que vous avez évidemment été élu par vos confrères secrétaire perpétuel en 2005. Cela fait donc aujourd'hui 2 ans que vous assumez courageusement cette fonction, qui est une fonction très prenante.
Eh bien, vous faites bien de dire que j'y suis depuis 2 ans, car on pourrait croire que c'est rien par rapport à la perpétuité, mais en réalité, c'est une perpétuité, si j'ose dire, à durée déterminée.
Ah, expliquez-nous ça.
Je veux dire par là que le secrétaire perpétuel est élu par ses collègues pour une durée de 6 ans non renouvelable.
Ah, voilà une spécificité de l'Académie des sciences morales et politiques.
C'est une spécificité. Le régime des secrétaires perpétuels est variable suivant les académies, mais ça, celui-ci est notre régime spécifique.
Alors, l'une de vos spécificités, parce que l'autre, c'est tout de même l'appellation de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est un peu floue pour certains. Alors, sciences morales et politiques?
Et oui, c'est surtout cette association du mot science et du mot morale.
Voilà, c'est vrai.
Bon, en réalité, c'est une terminologie qui remonte au XVIIe siècle, et à l'époque, ce que l'on entendait par science morale, c'est la science des mœurs. C'est en quelque sorte la sociologie.
La science de la société, en fait.
De la
société. C'est ça que cela veut dire. Et d'ailleurs, le mot politique, on comprend mieux.
Voilà.
Alors, sciences morales et politiques recouvrent donc quelles disciplines ?
Ah, un très grand nombre de disciplines. Et je veux dire que c'est une caractéristique extrêmement frappante et en même temps très enthousiasmante de cette académie, de ce groupe de savants. Cela recouvre d'abord la philosophie. Il y a 6 sections. Et il vaut mieux que je les énumère. Section philosophique, section d'histoire et géographie, section de morale et sociologie, alors on retrouve là le mot morale que nous avons vu tout à l'heure, section de
législation
et droit public, c'est la 4e. 5e,
celle à laquelle
j'appartiens, c'est-à-dire la section économique et financière, avec un titre un peu plus long. Et enfin, une section générale qui a été créée plus récemment et qui est d'ailleurs la plus nombreuse. Elle comporte 10 membres, alors que les autres sections comportent seulement 8 membres.
Alors, puisque vous parlez de création, monsieur Albert, quelle est l'histoire de la création de l'Académie des sciences morales et politiques? Je crois que c'est une histoire un peu compliquée.
Je dirais plutôt mouvementée que compliquée.
Car si
elle est compliquée, c'est simplement parce que les académiciens n'ont pas toujours été des godillots. Ils n'ont pas toujours, sous les régimes autoritaires, été dans le sens du poil des autorités.
Et ça n'a pas plu.
C'est ainsi que notre académie, créée en 1795 par la Convention, a disparu en 1803. Le premier consul Napoléon Bonaparte a fait une modification dans le régime des académies qui faisait disparaître la nôtre. Elle a disparu parce qu'elle avait mauvais esprit, parce qu'elle avait des idées libérales et des idées républicaines.
Comme quoi les académiciens ont un côté rebelle auquel
Mais
on ne s'entend
vous,
pas
voilà,
forcément.
Voilà. Et c'est seulement après cette dissolution en 1803, c'est seulement 30 ans plus tard, 29 ans plus tard, en 1832, que l'Académie des sciences morales et politiques a été recréée par un grand ministre de l'Éducation nationale, de l'instruction publique, qui était Guizot. le grand historien de la civilisation européenne et de la France, Guizot.
Qui était membre de l'Académie lui-même.
Qui était membre de l'Académie lui-même, 1832.
Enfin, qui est devenu quand il l'a rétabli. Donc quand en 1832,
bien sûr, 1832,
voilà.
Oui. Pas de problème jusqu'à l'arrivée de Napoléon III. Et puis Napoléon III a fait une modification législative qui portait atteinte au statut de l'Académie des sciences morales et politiques. Et ça, c'était dans les années 50, 56 exactement. Mais vous savez qu'à partir de 1860, le Second Empire est devenu un empire libéral, plus accueillant aux idées nouvelles et hétérodoxes. Et notre Académie a été rétablie pleinement en 1865. Donc, une histoire assez mouvementée, mais qui, dont tous les mouvements s'expliquent par des problèmes d'indépendance à l'égard du pouvoir.
Ben oui, on ne s'appelle pas sciences morales et politiques sans évidemment prendre des positions fortes, je suppose. Donc c'est normal. Monsieur Albert, l'organisation de cette académie est-elle aussi compliquée et mouvementée ou plus simple ?
Non, elle est très simple. Il y a un président élu chaque année pour un an,
oui,
et non renouvelable. Un vice-président également élu pour un an et non renouvelable. Et puis le secrétaire perpétuel, qui est l'élément un peu permanent de l'organisation, qui, je vous le disais tout à l'heure, nous le disions tout à l'heure, est élu pour 6 ans.
Alors combien de membres dans cette académie ?
50 membres.
50 membres.
Je le disais tout à l'heure, il y a 5 sections de 8 membres chacune, soit 40, plus la section générale, 10 membres, ça fait 50.
On voit que vous appartenez à la section statistique.
Mais
et donc les chiffres,
c'est bien
sont
la
pas
moindre
étrangers.
Des choses que je connaisse à peu près le nombre de mes confrères. Car je tiens beaucoup à ce mot, confrères. Nous sommes une confraternité. Il y a quelque chose de fraternel dans nos relations. Et d'ailleurs, c'est symbolisé par un petit détail que j'ai envie de vous raconter.
Oui.
À chaque fois qu'un nouveau membre est élu, ce membre, pour pouvoir être pleinement agrégé à la compagnie, doit faire l'objet d'un décret d'approbation du président de la République.
Oui.
Une fois ce décret acquis, il est solennellement introduit dans la grande salle des séances, qui est la même salle que celle de l'Académie française, sous le portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne, salle magnifique. Et il est introduit par le secrétaire perpétuel qui tient le nouvel élu par le petit doigt.
Ah, très bien.
Voyez-vous,
symbolique, un geste symbolique.
Geste alors, symbolique.
Voilà. Qui le guide.
Voilà, de la confraternité. Et le perpétuel conduit le nouveau membre devant le président qui l'accueille et l'invite à s'asseoir à sa place.
Monsieur Albert, y a-t-il dans votre académie des membres étrangers ?
Oui. Il y a 12 membres associés étrangers qui sont des personnalités éminentes.
Alors nous voulons des noms.
Quelques noms. Je vais vous donner quelques noms. Je vais vous donner le prince Charles, je vais vous donner le roi Don Carlos d'Espagne. Je vais vous donner surtout le nom d'un certain cardinal Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI.
Donc des rois, des papes, c'est une académie qui a des correspondants étrangers, enfin pas des correspondants,
des membres associés étrangers. Et le tout dernier qui vient d'être intronisé en janvier dernier, est le Premier ministre du Luxembourg, Jean-Claude Juncker.
Un Européen comme vous-même, je crois, très convaincu.
Très convaincu et convaincant, l'un des hommes vraiment leaders au plan européen de l'avenir de cette construction européenne.
Vous pouvez parler de l'avenir avec lui, en effet, parce qu'il est jeune, finalement.
En plus, il est
jeune.
Il entre très jeune dans cette académie, c'est tout à fait intéressant.
Les membres associés étrangers sont donc reçus, eux, sous la coupole.
Sous la coupole.
Alors, cette fameuse coupole de l'ancienne chapelle.
De l'ancienne chapelle, prévue pour abriter le tombeau de Mazarin, et qui est devenue la coupole, avec une majuscule.
Oui.
C'est un nom commun, en quelque sorte, tellement il est célèbre. Quand vous prenez le taxi et que vous demandez d'aller sous la coupole, d'aller à la coupole, le taxi comprend
voilà.
Tout de suite.
Alors, il y a aussi dans cette Académie des sciences morales et politiques un certain nombre de correspondants. Il n'y en a pas dans toutes les académies. Dans la vôtre, il y en a.
Il y a des correspondants.
Ce sont des gens dont les disciplines sont aussi variées.
Il y en a 60 et qui jouent un rôle de relation avec les membres pleins de l'académie, les membres de l'académie eux-mêmes.
Dans cette académie, comme dans toutes les académies, on donne de l'importance au prédécesseur, à celui qui a occupé le fauteuil d'avant. Est-ce qu'on fait dans votre académie aussi un éloge de son prédécesseur quand on est
toujours élu ? Toujours, le nouveau venu fait l'éloge de son prédécesseur. Mon prédécesseur était un grand professeur d'économie, Henri Guiton. J'ai donc fait, et avec beaucoup de bonheur, parce que je le connaissais bien, l'éloge de Henri Guiton, dont au demeurant, j'avais été l'élève.
Vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. À Michel Albert, nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons dans un instant. Retour dans notre studio, toujours en compagnie de M. Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. M. Albert, vous nous avez relaté l'histoire mouvementée de cette académie. Quels sont les grands noms qui sont attachés à cette académie ?
Ils sont pléiades, madame.
Pléiades. Alors, ne va pas pouvoir les dire tous.
On ne va pas pouvoir les dire tous, mais ça commence par Guizot, dont je parlais tout à l'heure. Et à la même époque, il y a Talleyrand, a fini sa vie comme membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il y a eu des gens comme Michelet, le grand historien Michelet. Il y a eu Thiers, Adolphe Thiers. Il y a eu Tocqueville, qui est notre gloire intellectuelle, et dont nous avons célébré le 200e anniversaire de la naissance en 2005, il y a 2 ans. Voilà pour les plus anciens. Mais dans les plus récents, il y a eu Raymond Aron, il y a eu le philosophe Gaston Bachelard, il y a eu Bergson.
Bergson
était membre de notre académie et nous allons bientôt tenir un colloque pour célébrer le 100e anniversaire de l'évolution créatrice, le grand livre d'Henri Bergson, qui date de 1907, donc 100e anniversaire cette année. Je voudrais encore citer naturellement des gens comme Albert Schweitzer et puis Raymond Aron, Alain Perfitte, le mal français. Mal français est toujours là. Vous savez, c'est toujours aussi actuel.
Et la Chine qui s'est éveillée depuis.
Et la Chine s'est bien éveillée depuis.
Absolument. Et dans les membres alors actuels, bien sûr, ils sont. On ne peut pas les citer tous, mais
non,
bon,
écoutez, je n'en citerai que deux qui sont nos deux anciens premiers ministres.
Oui.
Pierre Messmer et Raymond Barre.
Qui n'appartiennent d'ailleurs pas à la même section. Et Raymond Barre n'est pas dans la section économie, j'ai vu ça.
Raymond Barre est dans la section histoire.
Histoire,
et
voilà.
Et Pierre Messmer est dans la section générale. N'empêche que tous deux ont beaucoup travaillé récemment à l'élaboration d'un livre que l'Académie vient de publier et qui porte sur un sujet qui devrait intéresser beaucoup de monde. Ce sujet est le suivant, c'est le titre du livre. La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse. Cela est signé par 8 personnes, 5 académiciens et 3 experts indépendants. Et parmi les 5 académiciens, les 2 grandes hautes personnalités dont je parlais tout à l'heure, le chancelier, le premier ministre et chancelier Pierre Messmer, et puis monsieur Raymond Barre.
Mais Canal Académie a fait des émissions, j'en profite pour le dire, avec chacun de ses académiciens. Il y a aussi M. De Broglie, il y a vous-même, bien sûr, M. Albert, et il y a M. Boiteux. Donc chacun est venu et on peut trouver ses émissions dans notre médiathèque.
Permettez-moi de dire aussi que nous avons travaillé avec 3 experts de très très haut niveau. Le premier est Jean-Michel Charpin, directeur général de l'INSEE. Le deuxième est le professeur De Boissieux, Christian De Boissieux, qui est le président du Conseil d'analyse économique, qui réunit tous les meilleurs économistes français, il en est le président. Et le troisième est Jean-Philippe Cottis, qui est l'économiste en chef de l'OCDE, c'est-à-dire de l'organisation internationale qui réunit les 30 pays les plus développés du monde. C'est vous dire que ce sont 3 experts parfaitement indépendants, de très haut niveau, qui attestent de la valeur de ce que nous disons dans ce livre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse.
Et ça n'est pas, permettez-moi de vous reprendre, un livre qui devrait intéresser tout le monde, parce que c'est un livre qui a intéressé tout le monde, car quand on voit l'épais dossier de presse, on voit bien que la presse a beaucoup, beaucoup parlé de cet ouvrage. Et donc, on peut toujours le lire, bien sûr, et sur le site de Canal Académie, comme sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, vous avez tous les renseignements pour pouvoir consulter ce livre. Monsieur Albert, est-ce que c'est une des missions de l'Académie de faire des publications, justement?
C'est l'une des missions, et c'est peut-être la première des missions de l'Académie, que d'étudier les grands problèmes de société, d'être en quelque sorte un centre d'intelligence des grandes questions du monde contemporain, n'est-ce pas ? Les anglo-saxons appellent ça « think tank », je préfère le dire en français, centre d'intelligence des grandes questions du monde contemporain. Et cela se traduit d'abord par les travaux, continue les travaux hebdomadaires de l'Académie, et ça se traduit ensuite par des activités de publication telles que celles dont nous venons de parler. Permettez-moi de vous parler de notre séance hebdomadaire de travail.
Voilà, séance
tous les lundis.
Tous les lundis.
À 15h, il y a une séance publique, ouverte au public, sur de grands sujets qui sont déterminés à l'initiative du président de chaque année. Cette année, notre président est un très grand médecin, un très grand cancérologue, le professeur Lucien Israël, et il a choisi comme sujet pour l'ensemble de cette année santé, médecine, société. Vous voyez que ce n'est pas un petit
sujet,
mais
traiter
un sujet qui manque d'actualité. Nous trouvons beaucoup, beaucoup d'écho aux travaux qui sont ainsi faits. Et
vous-même, vous aviez fait une année consacrée à l'Europe, je m'en
2004.
Souviens, en 2004. Voilà.
J'étais président en 2004, c'était l'année qui précédait le référendum sur le projet de constitution européenne qui a eu lieu, vous vous en souvenez, le 29 mai 2005. Et par conséquent, pendant toute cette année, j'ai essayé de faire venir des grands témoins de la construction européenne, français et étranger, de gauche et de droite, et par exemple, Cohn-Bendit et Philippe de Villiers.
Par exemple, mais aussi parce qu'on va la rediffuser très bientôt sur Canal Académie, une intervention très brillante de M. Guérémec, dont on parle beaucoup actuellement, justement.
Parfaitement, et qui nous a fait l'honneur, en effet, très gentiment de venir faire une séance avec nous. Je tiens à dire que quand on est étranger, ce n'est pas facile, car la séance est en trois parties. Première partie, une conférence, un exposé sur un sujet prédéterminé, bien sûr. Pour M. Guérémec, c'était la construction européenne vue du côté des pays de l'Est. Et je n'oublierai pas le témoignage tout à fait émouvant qu'il nous a donné quand il a dit qu'il lui était arrivé d'avoir une immense surprise après l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, à savoir qu'on ne lui a pas demandé son passeport. On ne lui a pas demandé son visa sur son passeport. Il entrait,
s'est senti chez lui.
Il s'est senti chez lui, à Orly, à Roissy plutôt, quand il est arrivé en France. Et donc, je reprends. Les séances du lundi sont en trois parties. Première partie, la conférence. Bien. Ça, c'est relativement facile, on la prépare, on en fait lecture. Deuxième partie, les questions des confrères. Et là, permettez-moi de vous dire que je trouve vraiment passionnant de voir que tous ces hommes et ces femmes qui sont des seniors, qui sont des gens dont l'âge moyen est de l'ordre de 80 ans, ce sont des gens qui ont l'esprit jeune, qui ont l'esprit vif,
très
informé. Et je trouve que entendre les meilleurs philosophes de notre pays poser des questions sur les problèmes de financement de la sécurité sociale,
par exemple,
le sujet de l'année. Lorsqu'on voit un démographe poser des questions sur le fonctionnement de la justice, l'an dernier c'était la justice du procès Boutreau, eh bien, par exemple, c'est tout à fait passionnant et la richesse des questions est tout à fait remarquable. Et je continue à propos de Guérémec. Ensuite, il faut répondre aux questions. Il faut avoir compris les questions. Et pour quelqu'un qui a l'expérience
en langue étrangère,
la langue étrangère, c'est beaucoup plus compliqué. il a fallu comprendre les questions, être capable d'improviser des réponses. Guérémec le fait admirablement.
Bien sûr, d'abord parce qu'il possède extrêmement bien la langue française, ça ne lui est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est une des richesses de cette académie, je crois que vous avez raison
elle
de le souligner.
Elle est la plus diverse.
Voilà,
elle
la diversité donne une effervescence intellectuelle.
Voilà. Avez des gens qui sont fascinantes. Formation historique, formation philosophique, formation financière, économique, entreprise privée, entreprise publique. Vous avez des hommes et des femmes qui sont des professeurs, d'autres qui sont des hommes d'action.
C'est voilà, les expériences s'enrichissent mutuellement.
Mutuellement,
c'est très intéressant.
C'est de la plus grande diversité. Je crois même qu'on peut dire qu'il n'existe probablement pas beaucoup d'académies, il y a beaucoup d'académies à travers le monde, d'académies qui concentrent autant d'activités sur un aussi petit nombre de personnes.
Voilà, c'est un choix tout à fait bien fait, en effet. Michel Albert, merci pour toutes ces précisions. Nous marquons une courte pause, nous nous retrouvons dans un instant.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de français à l'étranger. Avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Retour dans notre studio en compagnie de Monsieur Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Monsieur Albert, vous parliez à l'instant des très passionnantes communications, puisque c'est le mot qu'il faut utiliser, qui sont faites tous les lundis à l'Académie des sciences morales et politiques.
Publics,
et qui sont publiques. C'est
rappelle,
une spécificité
rappelle,
de
oui.
cette académie, car oui. toutes les séances ne sont pas publiques. Ces séances et ces communications font l'objet, évidemment, d'un texte écrit. Et ce texte, on peut le lire sur le site de l'académie, dont je donne les références actuelles, asmp.fr. Si on tape Académie des sciences morales et politiques, on a aussi le site de l'Académie des sciences morales et politiques.
Et ASMP,
c'est l'abréviation, les initiales de l'Académie des sciences morales et politiques.fr. On y trouve en effet tous les discours et bien d'autres textes aussi. Dès que le texte est important et comme la communication a lieu le lundi, je crois qu'on a le texte dans la semaine très rapidement, donc il n'y a pas de souci. On peut souvent aussi écouter le son sur Canal Académie, bien sûr, puisque nous enregistrons ces communications. Encore un mot sur ces communications, Monsieur Albert.
J'ai envie de dire que...
ou sur l'Académie. Encore un mot sur l'Académie elle-même.
On pourrait dire beaucoup de choses. Par exemple, le fait que l'Académie est consultée pour la création, pour la nomination d'un grand nombre de grands établissements, par exemple l'École normale supérieure, par exemple le Conservatoire des arts et métiers, par exemple l'École pratique des hautes études ou l'École des hautes études en sciences sociales. Nous sommes saisis des projets de nomination des professeurs et des dirigeants de ces établissements. Nous veillons également à la gestion de la Casa Velázquez à Madrid, de l'École française de Rome et de bien d'autres établissements de même nature. Nous jouons donc là un rôle consultatif.
Un conseil que le gouvernement en place vous demande.
Nous demande, parfaitement. Et par ailleurs, nous avons naturellement la faculté de nous auto-saisir de toute question sur lesquelles nous nous prononçons pour informer l'opinion publique et informer les pouvoirs publics. Je vous ai donné le plus actuel des exemples avec notre livre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse », mais il nous est arrivé à différentes reprises
de vous prononcer sur des sujets délicats, par exemple,
la réforme du recensement de la population française, par exemple sur un projet de code civil européen, par exemple sur la brevetabilité du génome humain. Dieu sait si c'est une grande question. Eh bien, nous avons donné un avis sur ce point.
Ça veut dire qu'il y a des groupes de travail qui, en dehors des séances, travaillent régulièrement.
Tout à fait. Et il y a une série de groupes de travail dont les travaux d'ailleurs donnent lieu à des publications régulières, notamment aux presses universitaires de France.
Monsieur Albert, avant de nous quitter, un dernier mot sur l'Académie.
Un dernier mot sur l'Académie. Et ce dernier mot, je l'adresse à Radio Canal Académie Première, radio académique sur Internet. Je disais tout à l'heure que nous sommes une confraternité de seniors, mais de seniors qui ont l'esprit jeune, et la preuve de cette jeunesse d'esprit est donnée par notre confrère Jean Cluzel, créateur de la première radio académique sur Internet, celle qui a bien voulu m'inviter ce matin et à laquelle je tiens à adresser tous mes remerciements.
C'est nous qui vous remercions, car nous sommes en effet avec un lien très privilégié avec l'Académie des sciences morales et politiques, et un lien que nous apprécions particulièrement. Monsieur Albert, je vous remercie infiniment de nous avoir présenté l'Académie, de nous avoir éclairé, de nous avoir montré son actualité et son rôle et toute son importance dans la société actuelle. Merci beaucoup.
Merci, madame. Thank you.